J'espère que nos cours sont assez proches de ceux qui les écoutent. Je veux dire par là que mon souci est d'être accessible, non pas de parler tout seul. Étant donné qu'il s'agit là d'une Torah qui est une Torah profonde, une Torah de l'âme, effectivement, donc la manière d'aborder les choses n'est pas conventionnelle. Mais c'est la Torah qui nous est demandée d'être étudiée dans les moments de délivrance, dans les moments de Géoula que nous sommes en train de vivre. Et donc, si ce n'est pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le ferait? Alors, nous sommes avec toute humilité dans cette préparation de ce dévoilement messianique qui nous exige, qui demande d'être avec des ustensiles assez puissant pour recevoir cette lumière, car la lumière est puissante. Et donc la lumière qui est en train de descendre, Chas v'shalom, pour ceux qui ne sont pas capables de l'appréhender, peut faire de gros dégâts. Et c'est pourquoi il est très important de renforcer nos ustensiles de réception et être à la hauteur de cette lumière. Quand je parle de cette lumière qui est en train de se dévoiler, c'est une lumière qui vient d'un niveau très haut, selon la Kabbalah, de Olam Ha'atzilut, du monde le plus élevé, car il n'y a pas de Géoula si ce n'est que de cette lumière de Hatzilut. Donc il va falloir des kélim très forts pour recevoir, contenir et ne pas exploser au contact de cette lumière. Si vous voyez des gens qui implosent, qui pètent un câble, comme on dit en français d'aujourd'hui, mais c'est très souvent parce que la lumière est tellement forte et que leurs ustensiles ne sont pas assez solides pour cette période de l'histoire. Nous sommes donc appelés à être dans l'ustensile d'ailleurs le plus fort qui soit, c'est-à-dire la terre d'Israël. Ça aussi, on ne peut pas vivre cette délivrance en dehors de cette terre convenablement. Et donc la terre d'Israël, elle aussi, a été fabriquée avec une matière qui est capable de recevoir cette lumière sans éclater. Nous étions en train de parler de cette lumière qui pénètre à l'intérieur du halal du Tzimtzum. Nous l'avons comparée à la Neshama par rapport au corps. Le corps, c'est le Tzimtzum. La Neshama, c'est le Kav. La Kav, le degré de faisceau de lumière qui vient de l'infini, pénètre ce halal qui est circulaire. Et l'union entre les deux, c'est ce qu'on appelle Igulim et Yosher, c'est un zibouk, c'est un mariage qui va engendrer un mouvement. Car la descente, entre guillemets, de la lumière divine dans ce monde engendre toujours un mouvement, ce n'est pas une lumière stérile. Lorsque Dieu se révèle dans ce monde, cela engendre des mouvements. Des mouvements cosmiques, des mouvements spirituels et même des mouvements tactiques. Et des mouvements de la terre, des mouvements de l'univers tout entier, des mouvements et des changements atmosphériques. Et donc, vous voyez des chamboulements dans la nature elle-même, car la nature est en train de se mettre en place comme la femme enceinte, dont les éléments intérieurs de son ventre se poussent pour laisser la place au fœtus qui est en train de grandir. Mais de la même manière, le monde est en train de bouger pour laisser la place à ce dévoilement messianique. Et donc, vous êtes témoin de situations qui sont improbables, comme en Eretz Israël, la pluie, des tonnerres, des éclairs à cette période de l'année. Et ce mouvement-là est un mouvement qui a la forme d'une spirale. En effet, lorsqu'un faisceau pénètre un cercle, eh bien, il lui donne un sens, sans pour autant perdre le cercle, et bien entendu, sans perdre le faisceau. Il y a une union entre le mouvement circulaire du cercle et le mouvement rectiligne du faisceau, ce qui va nous donner en fait une spirale, comme une vis qui avance et qui pénètre l'histoire. Et donc, il ne s'agit pas de broyer la nature, car cela a déjà été fait une seule fois à la sortie d'Égypte, où la nature a été mise de côté. Cette fois-ci, la dernière délivrance, va respecter les lois de la nature et donc va respecter, avec nos définitions, la nature du cercle. On est toujours d'accord. C'est-à-dire que le cercle naturel, le cercle de la nature, ne sera pas mis de côté pour opérer la Géoula. Car la première fois, la sortie d'Égypte, cela a été fait et la nature s'est plainte. Elle a demandé à Dieu, si tu m'as créé avec des règles naturelles, pourquoi tu changes mes règles pour la sortie d'Égypte? À la sortie d'Égypte, l'eau s'est mise comme une muraille, ce n'est pas sa nature. L'eau s'est transformée en sang, ce n'est pas sa nature. Tous les degrés ont changé les lois de la nature. La nature donc est venue se plaindre et elle avait raison. Et l'Éternel de lui promettre qu'à la fin des temps, dans la dernière Géoula finale, bien la nature ne sera plus mise de côté, bien entendu, inversement, elle sera associée à la Géoula. C'est-à-dire que les choses vont s'habiller dans la nature. Donc les gens qui ne voient pas comment l'infini s'inscrit dans la nature, dans notre propre Géoula aujourd'hui, risque de rater le mouvement de la Géoula. Et pour ne pas être parmi ceux qui ratent et qui ne voient pas, il a été décidé de nous rajouter une prière dans la Amida, que Techezena enenu, Akadosh Baruch Hu, fais-nous voir. Et Shuvcha le Tzion Berachamim, lorsque tu reviens à Tzion avec ta miséricorde. Si on a rajouté cette prière, il est sous-entendu que certaines personnes ne voient pas et qu'il faut prier pour être parmi ceux qui voient. C'est clair? Nous avons expliqué qu'en hébreu, il est très important d'étudier la Torah dans le langage de source, c'est-à-dire la Shona Kodesh, la langue du Saint béni soit-il, celle avec laquelle le monde fut créé. Et lorsqu'on regarde du haut vers le bas, en hébreu, on ne peut pas prononcer ni utiliser le mot lehistakel, lire haute. D'accord? Chaque fois qu'on regarde du haut vers le bas, si je regarde mes chaussures, je ne peux pas dire animistakel alana alain. C'est une fausse utilisation du langage. Il faut dire les habits. Dès que mon regard est du haut vers le bas, on parle donc de habata à l'infinitif. Ani mabit, ata mabit, hu mabit, anachnu mabitim. Lorsque Akadosh Baruch Hu fait sortir Abraham Avinu de toutes les constellations, de tous les astres, pour lui montrer qu'il est au-delà, il est dit dans le texte, Vayotze oto hachutza. Il le fait sortir. Rashi, sur place, dit il le fait sortir de tous les astres qui dirigent la vie. Autrement dit, Dieu fait en sorte qu'Abraham ne soit plus dirigé par les astres, en lui prouvant que lui et sa descendance, le peuple d'Israël, vont être des êtres qui dépassent, qui ont la capacité en tout cas de dépasser les lois de la nature. Et là-bas, il y a marqué Kadosh Baruch Hu dit Abraham, une fois qu'il le fait sortir, Habet na Hashamaim. Et là, il utilise le verbe qu'on vient de définir. Regarde le ciel. Étant donné qu'on vient de conclure qu'il s'agit d'une vision du haut vers le bas, bien cela prouve une fois de plus que l'Éternel a fait monter Abraham au-dessus pour lui permettre de voir le monde avec les yeux du divin, du haut vers le bas. Et donc il lui dit, viens voir comment moi je vois le monde. Magnifique. Kadosh Baruch Hu prend Abraham dans un voyage cosmique et il lui fait montrer tout le ciel, tous les cieux, tous les astres, tout le cosmos, toutes les voies lactées et celles qui ne le sont pas, avec une vision divine. Et donc, le résultat est clair. Vous, toi, Abraham, et ta descendance, vous avez la possibilité de voir le monde tel que moi, l'Éternel, je le vois. Et je m'adresse à vous maintenant. Tous ceux qui nous regardent maintenant, vous avez cette capacité qui vous a été dotée, incrustée à l'intérieur de votre être, de regarder la vie avec les yeux du divin. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, tout simplement, on étudie la Torah. La Torah, c'est les yeux du divin concernant toutes les choses. Donc notre étude nous apprend petit à petit à ne plus voir les choses avec les yeux de l'homme, mais avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Cette vision va nous donner la possibilité de voir des éléments que les autres ne voient pas. Cette vision va nous donner la possibilité de ne pas nous tromper là où la plupart des gens se trompent, parce qu'ils ne font confiance qu'à leur regard rationnel. Et donc nous sommes dans un degré très élevé, donc Behabata Mimala Lemata, donc le mot ici Habata, vous voyez les habits, du haut vers le bas. Eh bien, lorsqu'on regarde les Sphirot, l'arbre des Sephirot, du haut vers le bas, rappelez-vous, Kol Asphirot Shanu Metzairim Betsura Shel Yamin Smol Ve'emtsa, tout l'arbre des Sphirot que nous dessinons lorsque c'est à plat, droite, gauche et centralité, eh bien, quand on regarde avec une vision du haut, du dessus, Nimtsaot Beota Spirala, se trouvent toutes les Sphirot sur cette spirale dont on vient de parler. Donc, qu'est-ce que je vois quand je regarde les Sphirot par-dessus? Un cercle et un point au centre de ce cercle. Le point au centre du cercle, c'est la droite qui donne la direction, qui pousse vers l'avant. Et le cercle, c'est la nature. Donc, en réalité, le grand secret de notre monde, c'est exactement l'axe d'une roue. Vous regardez une roue avec un axe central et le rayon. Milemala hakol nir'e ke'igul. Donc, dans une vision du dessus, tout est comme un cercle echad asher be'emtsaito yashno kav manche nir'e milemala kenekuda. Donc, on voit un cercle et un point au centre. Ça, c'est le grand secret de ce mariage qu'on appelle Igulim Veyosher. Que représente ce cave donc? On avance, Hakav ou Achalom. Ce cave, c'est le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Eh bien, c'est la capacité à faire venir d'un monde qui est de l'au-delà des informations pour les faire entrer dans le monde d'ici. Donc, quand on va rêver, eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. On apporte des éléments qui viennent du monde très élevé et on les fait descendre dans notre réalité physique, terrestre, humaine. Le Kav, ce faisceau de lumière, étant donné qu'il est lui-même celui qui pénètre le cercle, eh bien on peut dire qu'il est aussi Cholam, c'est-à-dire qu'il est lui-même la soudure. En hébreu, les Halchim soudés. Donc, Cholam ne veut pas dire seulement rêver, mais souder. Comme Lechem. Lechem, c'est le pain qui soude la Neshama au corps. Quand on mange du pain, on fait en sorte de mieux vivre. Donc, on soude l'âme au corps. Donc, le Chalom, c'est celui qui te fait venir des éléments du très haut vers le bas. D'ailleurs, si tu es plein de rêves dans ta vie, tu es beaucoup plus doux comme personnage. Parce que le mot cholam et chalom, c'est mochel, tu es capable de pardonner, mechila. Donc tu pardonnes beaucoup plus facilement que les autres. Les autres sont toujours durs, têtus, obtus, fermés dans un petit système. Toi, tu peux passer, tu dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tout cool, tu demandes quelque chose, vas-y, avance, c'est bon. Alors que tu as des gens, c'est toujours un problème. Tu n'oses même pas, tu réfléchis 10 fois comment aborder le problème. Il y a des gens, ça coule, on avance. Mais c'est ça le chalom. Et tout ça, ça vient du mot cholam. Si tu ne sais pas faire le chalom, tu tombes dans la guerre, milchama. Donc milchama, c'est les mêmes racines que le mot chalom. C'est-à-dire que tu vas être coincé dans un système qui va te coincer comme le sel, melach, inscrit aussi dans ce mot. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup de degrés à chercher de ce chalom, Mais d'une manière générale, le chalom, c'est comme le point du Très-Haut qui descend. Quand j'écris la lettre Vav et je mets un point au-dessus de sa tête, ça s'appelle un cholam. Eh bien, c'est exactement pareil. Le cholam, c'est le point du dessus qui me dit oh. Eh bien, c'est parce que c'est tellement haut que tu dis haut. Et c'est ça le cholam. Et donc, il est à Merakez et Kolamegamot Kulam. Ce cave, quand on le regarde du dessus, c'est un point, rappelez-vous. Un point qui est une ligne, en fait. Mais vu de dessus, c'est un point qui rassemble tous les buts même de la création du monde. C'est-à-dire que c'est l'avancée des idéaux et des intérêts du Créateur par rapport à sa création. D'accord? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu utilise ce cave pour faire avancer ses intérêts. C'est simple, c'est clair ce que je suis en train de dire? Donc le cave, c'est l'application des intérêts d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il utilise ce cave comme une échelle. C'est ça que le chalom, c'est aussi une échelle. Et donc le cave, c'est le fondement et la source même de toutes les espérances, tikva. Vous voyez que dans le mot tikva, il y a le mot kav au centre. D'accord? Donc quand vous chantez la tikva, quand vous dites la tikva, quand vous dites que vous espérez, eh bien ça veut dire que vous êtes rassemblés par un élan optimiste. Tout ceci parce que vous êtes lié au kav, qui a donné d'ailleurs naissance au mot mikvé. C'est la même racine. Donc le mikvé dans lequel la femme se trempe, eh bien c'est tout simplement pour retrouver la ligne motrice de sa vie qu'elle a un petit peu oubliée, étant donné qu'elle s'est séparée de son homme pendant la période de ses règles. Il n'y a plus de droiture en fait. Et donc il faut qu'elle se réhabitue à la droiture que l'homme est censé apporter à la maison. Étant donné que pendant la Nida, il y a séparation entre lui et elle, eh bien elle doit se retremper dans le mikvé pour retrouver le kav, pour retrouver la droiture, c'est-à-dire le côté masculin qui lui manquait pendant toute cette période de Nida. C'est clair tout ça? Chelko ha'elyon shel hakav, la partie supérieure de ce faisceau, du kav, on l'appelle sa tête. Vous rappelez-vous que la nouveauté que nous avons gagnée dans l'apparition du kav, c'est qu'il y a maintenant une possibilité de mesurer. C'est-à-dire il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite, il y a une gauche. C'est-à-dire je peux diriger en fait la vie avec des sens, avec des directions. C'est très important d'avoir des directions dans la vie. La vie n'est pas un cercle. Si tu n'as pas de cave dans ta vie, si tu n'as pas ce faisceau de lumière dans ta vie est un grand cercle dans lequel tu tournes et tu te mords la queue. C'est-à-dire que tu deviens fou. Et c'est les fameux igoulim qu'on a déjà rappelé à maintes reprise comme étant le Chet Ha'Egel, rappelez-vous, la faute du cercle. On traduit en français la faute du veau. En fait, c'est la faute du cercle. Quelqu'un qui n'a pas de direction dans sa vie ressemble à un veau qui tourne en rond. Et donc, il ne sait pas où aller. Et donc, le kav est très important. Et c'est pourquoi on peut maintenant définir sa tête, c'est-à-dire son début. Où se trouve la tête du kav? Eh bien, dans la lumière infinie. Puisqu'il va faire venir cette lumière pour la faire rentrer dans le halal. On est d'accord. Donc la tête est en haut. Chelko atarton, par contre, la partie basse du kav, nimshach at karov le nekudat merkaz halal, elle se rapproche du centre du cercle, de ce ballon. Sham merukez et informatia hanechutza labaot. Et là-bas, en bas, toute l'information attend, parce qu'elle est arrivée au bout de ce faisceau, en bas du faisceau, et elle attend. Elle attend, elle attend avec impatience. Et vous savez que plus il y a de... Imaginez-vous que c'est de l'eau qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. En fait, tout attend à la porte, à la sortie, comme le robinet. Donc, dès que vous ouvrez le robinet, Il y a une explosion d'eau. Ça, c'est la Géoula. À un moment donné, le faisceau ne peut plus se retenir. Pas comme dans le robinet où l'eau attend. Là, chaque fois qu'il y a des éléments de lumière qui entrent, ça fait grandir la tension. Il y a un métar. Or, ce faisceau-là, si je devais lui donner le nom d'un acteur de la Torah, on va l'appeler Yosef HaTzadik. Donc, Yosef HaTzadik, c'est Yud, j'écris le mot Yosef, qui devient Vav, donc qui se prolonge, Adasof. Donc, je viens de vous écrire Yosof, Yosef. Ça veut dire que Yosef, c'est celui qui représente ce Kav HaYosher. Et comme il est écrit au moment de la Géoula, dans la paracha de Vaïgash, « Velo yachol Yosef leitapek od al kol anitzavim alav » Yosef arrive à un moment où ce Kav ne peut plus se retenir d'exploser tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, parce que la pression augmente. Comme ce que vous ressentez aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous recevez comme information. Vous sentez tous qu'il y a une grande guerre qui se prépare, vous sentez tous qu'il y a une tension dans le monde, vous savez tous qu'il y a quelque chose qui va se passer. On est comme sur une marmite qui est en train de bouillir et qui va d'un instant à un autre exploser. On nous prépare petit à petit à ce dernier événement historique de l'histoire humaine. Car il s'agit de la dernière guerre, de Gog ou Magog, et nous sommes dans ce processus et nous ressentons à l'intérieur de notre être, et plus nous sommes sensibles, plus nous ressentons cela beaucoup plus fort, eh bien, arrive un moment où tout va sortir pour dévoiler la lumière. Et Yosef ne peut plus se retenir, et qu'est-ce qu'il dit? Hotziu kol ish me'alai. Sortez tous ceux qui ne font pas partie de mon dévoilement. C'est-à-dire qu'il y aura un tri quant à ceux qui vont rester, ceux qui vont disparaître. Et donc Yosef va faire le tri, et il va garder ses frères autour de lui pour leur donner la lumière messianique. Donc le cercle en face de Yosef, ce sera Yehuda. Donc Yosef, c'est le cercle, la droite, la ligne, et Yehuda, c'est le cercle. D'accord ? Donc nous avons aussi, encore une fois, cette union, ce mariage, c'est pour ça qu'il y a Mashiach ben Yosef qui est le Kav et Mashiach ben David qui est le cercle. Comprenez? Et les deux ensemble, Ve'ayu le'achadim be'yadecha. Tu dois les avoir comme une seule unité dans ta main. Comment tu fais pour les avoir les deux dans la main? Eh bien, c'est comme une bague qu'on met au doigt. La bague, c'est le Igulim. Et le doigt, c'est le Yosher. Donc, quand vous mettez une bague dans votre doigt, vous avez en fait un mariage permanent entre le Igulim et le Yosher. Comprenez? Donc, « Akav me'afsher itpashtut ha'or » Donc, le Kav va permettre un épanchement de cette lumière. « Ayotze mikol aptachim shebeguf ha'adam » Et cette lumière va sortir de tous les orifices. De qui? De ce homme qu'on appelle Adam Kadmon. D'accord? Adam Kadmon, c'est un monde qui est très élevé, qui est même plus élevé que le monde de Hatzilut. Il est avant le monde de Hatzilut. On n'en parle pas beaucoup, mais pour notre cours, il est nécessaire de savoir. Après le Olam qu'on appelle Adam Kadmon, va venir le Olam à Hatzilut. Que va-t-il se passer dans ce Olam de Adam Kadmon? Eh bien, il y aura la brisure, la fameuse brisure des vases. D'accord? Shvirat HaKelim. Qui va donc obliger d'engendrer un autre monde qui va venir après, donc Atzilut, qui va être, par rapport à la Shvira de Adam Kadmon, Olam HaTikun. Ça sera le monde de la réparation. Je répète, pour que ce soit simple, Adam Kadmon, c'est là où la lumière commence à circuler et elle ressemble, cette circulation, à la forme d'un homme. C'est la matrice du futur homme. Donc on l'appelle ce monde Adam Kadmon, l'homme primordial. Ce monde n'est pas un homme, c'est un monde, c'est un concept de l'ordre de l'infini. Mais il ressemble, il a les mêmes caractéristiques du futur homme qui va apparaître dans le monde. Vous êtes avec moi? Et donc, on commence par faire descendre la lumière donc de l'infini, qui va passer donc par ce vecteur qui s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, étant donné qu'il est fabriqué à la ressemblance, à l'image de l'homme, eh bien, comme chez l'homme, Adam Kadmon a des orifices, des passages dans son corps. Il a des yeux, ce sont deux trous. Il a des oreilles, c'est un orifice. Il y a des narines, il y a la bouche. Vous voyez que il y a des degrés, il y a le nombril, il y a plus bas. Tout ceci, ce sont des passages de la lumière. Donc la lumière va utiliser ces passages pour se dévoiler. Et donc, le cave va permettre donc l'épanchement de la lumière qui va passer par tous les orifices, par tous les passages de ce monde qu'on appelle Adam Kadmon. Yeshno or hayotze derech ha'einaim. Donc, il y aura une lumière qui va sortir et passer par les yeux de ce monde. Tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pour l'instant, on étudie le texte. Donc, il y a des lumières qui vont sortir par les yeux. Echad, et une autre lumière, ayotze derechoznei Adam Kadmon, qui va sortir par l'orifice des oreilles. C'est encore un passage. Vous voyez que l'orifice des yeux n'est pas le même orifice des oreilles. Donc, forcément, on peut déjà dire que la lumière qui va passer par les yeux ne ressemble pas à la lumière qui va sortir par l'oreille. Et encore moins par la lumière qui va sortir par le nez, par les narines, et encore moins par la lumière qui va sortir par la bouche. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Bien parce que chaque orifice représente un filtre. Donc s'il y a une lumière qui sort par le filtre qu'on appelle Ozen, ça ne peut pas être la même lumière qui va sortir par un filtre qui s'appelle Aïn, ne serait-ce que par les lettres. C'est-à-dire que les lettres qui forment le nom de la partie du corps indiquent déjà la qualité de la lumière qui peut passer à travers ce passage. Vous êtes avec moi? Donc si vous aviez de l'hébreu suffisamment puissant à l'intérieur de vous, eh bien vous auriez compris comment le mot Aïn, qui s'écrit Aïn Yud Nun, donne la forme de l'œil au moment de la création de l'homme. Et le mot Ozen qui va vous donner la forme de l'oreille et l'équilibre qui se cache dans l'oreille, Izun, donc Ozen. Mais ça, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas appris l'hébreu suffisamment et donc on a des pertes. Et la lumière passe, mais on rate. C'est comme l'eau qui sort du robinet pour rien. Tu la regardes sortir et toi tu te brosses les dents pendant ce temps. Et la lumière coule, 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 coule. Et elle va aux égouts. C'est dommage. Fais attention de toujours mettre un ustensile sous la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire mettons-nous sous le robinet d'Hachem. Et si tu es sous le robinet, tu te remplis sans arrêt. Ah, tu veux même partager? Alors deviens tsinor. Mais tu es toujours branché au robinet. D'accord? Et donc, il y a une lumière qui sort des yeux, une lumière qui sort des oreilles, une lumière qui sort du chotem, du nez, au piv, ou bien de sa bouche. Kamouvan, shehayetziot hashonot, bien entendu. Ces orifices et ces sorties de lumière qui sont différentes par rapport aux membres par lesquels la lumière sort, ba'ot levate anahagot elyonot shonot. Tout ça vient nous révéler des conduites différentes d'Hachem. Hachem va conduire son monde en passant par l'oreille, en passant par la bouche, en passant par les yeux, en passant par le nez. Et chaque fois qu'un kabbaliste va te dire, ah, ça c'est une lumière qui est sortie par tel orifice, donc elle a déjà une qualité que je connais. Vous êtes avec moi? Yesh le azkir shuv pam, et nous rappelons ici encore une fois, pour la énième fois, ki hashinuim tluim beyecholtam shel hakelim. Tous les changements ne viennent pas de la lumière c'est la même. Seulement, à chaque fois qu'elle est confrontée à un obstacle, s'il a la forme du nez, eh bien elle va traverser le nez, elle n'a pas de souci, mais elle va sortir différemment. Ça va être une lumière nasale. Et lorsqu'elle va traverser la bouche, eh bien, ça sera une lumière buccale. Et si elle passe par les dents, ça sera une lumière dentale. Et si elle passe par la langue, ça sera une lumière de langue. Et donc, il y a tout un degré, hein, des secrets de ce passage de lumière. Mais la lumière, elle, elle est pareille. C'est la même lumière, lumière de source. Pas plusieurs lumières, chas v'shalom, parce que nous n'avons pas plusieurs dieux, chas v'chalila. Nous avons un seul maître, et c'est sa lumière, sa volonté qui passe par tous ses orifices. Donc tout dépend de la qualité du kli pour contenir et faire passer cette lumière, et or Hashem, amit pachet, klomar et retsonoid barach. Et tout ceci, c'est en réalité la circulation, on appelait de lumière. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Eh bien, c'est sa volonté. Okay? Ce n'est pas de la lumière qui coule comme dans une centrale électrique. Hein? Ce n'est pas du 220 volts, même s'il y a 22 lettres. Et que le 220, c'est 10 fois 22. C'est pareil. C'est-à-dire que même le 220, c'est une répercussion de ce qui se passe dans les olamot elyonim pour le monde. C'est-à-dire que même dans l'électricité, il y a 22 lettres. 220, 22 otiot x 10. Donc, moralité, nous sommes ici pour dévoiler la lumière divine. Cette lumière divine, c'est-à-dire sa volonté. Ah, maintenant, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette différence. Qui fait la différence entre les degrés? Pourquoi l'oreille a la forme d'une oreille? Et le doigt que tu regardes maintenant a la forme du doigt. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas la même chose? Eh bien, tout simplement, là, il y a un grand secret. Écoutez très très bien là, parce que là, nous touchons un grand secret qui peut vous servir dans la vie. Tout ce que vous voyez dans ce monde, les formes différentes, même de votre corps à vous, de votre visage, si vous ressemblez à ce que vous ressemblez, si vos mains ressemblent à ce qu'elles ressemblent, si vos doigts sont comme ils sont, c'est parce qu'il y a un degré, une grandeur différente de vouloir. De vouloir quoi? Recevoir la lumière. C'est-à-dire que la différence des formes, c'est la différence des vouloirs. D'accord? C'est-à-dire que si je veux de telle manière, eh bien, je vais parler d'un doigt. Si je veux d'une autre manière, je vais parler d'une oreille. Chaque fois que je veux différemment, je me transforme. Ce qui fait que même quand je me transforme et que je grandis dans la Kedusha, d'une manière générale, bien mon corps va changer, mon visage va changer. Ma façon de parler va changer. Physiquement, je vais changer. Bien entendu, parce que je change mentalement, psychologiquement, dedans. Et donc, les effets sont sur toutes les couches de l'être. Si quelqu'un a des problèmes dans sa peau, bien c'est parce qu'au niveau psychosomatique, le passage de la lumière ne se fait pas comme il faut, parce que cette personne est peut-être trop nerveuse, parce que cette personne parle beaucoup de la shonara, parce que cette personne ne surveille pas assez sa bouche. Et donc, il va y avoir sur la peau des plaques, de l'eczéma, des formes qui montrent, attention, tu es en train de gâcher ton canal. Donc corrige ta façon de parler, tu auras moins de blessures sur la peau. Corrige ta façon de voir, tu auras moins mal aux yeux, et ainsi de suite. Donc tout est relié. Aujourd'hui, la médecine ne prend pas seulement la médecine conventionnelle, elle utilise aussi une médecine beaucoup plus profonde. Vous pouvez demander à Anita, qui est spécialiste dans le domaine. Et en réalité, donc, tous les degrés changent. Et ça change par rapport à cette capacité de recevoir la lumière. Et c'est comme ça qu'en réalité, je peux savoir par rapport au corps que je vois devant moi, combien tu veux ou combien tu ne veux pas. C'est extraordinaire. Ça fait peur. Ça veut dire, je peux savoir, je peux quantifier ta volonté par rapport juste à ton corps. Parce que ton corps me parle. Il y a un langage du corps que beaucoup d'entre nous ignorent, mais qui existe, et qui me raconte en fait tout ce que tu as dedans. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu ressembles à ce que tu ressembles. Et parfois tu trouves quelqu'un, tu lui dis, waouh, tu es beau aujourd'hui, il y a quelque chose en toi qui est magnifique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? En fait, il a changé quelque chose en lui. Il a transcendé un problème. Il a dépassé un degré qu'il n'arrivait pas à dépasser. Et ça a donné un changement physique et physiologique dans son être. Et les gens le trouvent beau, épanoui. Par contre, quelqu'un qui est triste, par exemple, Chas v'shalom, il a fermé quelque chose en lui parce qu'il a reçu, Chas v'chalila, une mauvaise nouvelle. Eh bien, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va voir qu'il a un visage fermé. Et donc tout se voit. Donc la lumière va se transformer alors qu'elle ne se transforme pas, mais elle va se révéler, se dévoiler. Bien? Elle va être captée différemment, plus justement dit, par rapport à la volonté de recevoir. Donc, les différents degrés de vouloir, de recevoir, vont faire dévoiler différentes facettes de la même lumière unitaire. Je rappelle que c'est le secret de David Ameler dans Tehilim 62. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Quand Dieu parle un, moi j'entends deux. Qu'est-ce que ça veut dire deux? Deux veut dire différent. Je commence le monde des différences. Parce que ma capacité à vouloir change. Donc un coup je veux moins, un coup je veux plus. Mais quand je veux plus, eh bien je suis plus traversé par la lumière. Quand je veux moins, eh bien je suis moins traversé par la lumière. Comme disait le rabbi de Kotsk, Zechuto tagen alenu amen, Efo nimtza hakadosh baruch hu, où est-ce que Dieu se trouve? Bemakom shenotnim lo leikanes, à l'endroit où on le laisse rentrer. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu se met à notre portée et il ne passe que par là où on veut qu'il passe. Et si Chas v'chalila, la personne se ferme au passage de la lumière divine, eh bien, elle devient de plus en plus malade. Et si Chas v'chalila, la lumière divine ne traverse plus cette personne, ça s'appelle la mort. D'accord? Donc la lumière divine, c'est la neshama, elle sort, elle quitte ce corps, qui ne fait plus canal. Il ne joue plus son rôle. Donc on ne peut plus passer à travers lui, donc la neshama, la lumière divine, le quitte. Donc qu'est-ce qu'il devient? Un cercle, sans la droite. Vous comprenez? Donc comment est-ce qu'on appelle un mort en hébreu? Chalal, qui vient du mot chaloul. La même chose, c'est un mouvement circulaire qui n'a plus de direction. Le Chalel Shabbat, c'est la même racine. Qu'est-ce que c'est le Chalel Shabbat? En français, c'est profaner le Shabbat, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, ça veut dire enlever la vie qui circule dans le Shabbat à tel point que tu le rends chaloul. Tu as enlevé le yosher, tout simplement. Et tu as laissé ton Shabbat comme un igoul. Donc tu as été mechalel Shabbat. Le kadesh est un Shabbat. Akadosh Baruch Hu mekadesh est un Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qui circule à l'intérieur du Shabbat. Quand un homme se marie avec une femme, hareat mekudesh et li, qu'est-ce que ça veut dire? Bien que l'homme, à partir de cet instant, va circuler à travers sa femme. Il y aura une union entre lui, le Yosher, et elle, les Igoulim. Vous comprenez? Donc, cette lumière va changer selon les volontés. Gilui Ratzon Hashem Talui Beofen Ratzon Le Kablo. Donc finalement, conclusion, le dévoilement de la volonté divine ne dépend que d'une seule chose, de la manière qu'on a de le vouloir, de l'appréhender. Gavan Haor Mishtane, donc la nuance de la lumière va changer, Lefi Akelim, par rapport aux ustensiles de réception. Amunachim Befanav Kemasachim, qui vont être posés devant la lumière comme des écrans. Donc, imaginez-vous de l'eau. L'eau, elle va rentrer. Elle pénètre partout. Elle va trouver un caillou. Eh bien, c'est pas grave, elle va passer de tous les côtés. Elle va pas s'arrêter. C'est pour ça que c'est difficile de voir par où l'eau est rentrée dans le mur de la maison. Parce que tu peux avoir une infiltration à un endroit précis, et quand tu montes sur le toit, c'est au moins 10 sur le toit, tu es 10 mètres plus loin parce que c'est venu d'un autre degré, la lumière, elle s'en fiche. Elle fait tout le tour, même si c'est un long chemin, jusqu'à ce qu'elle arrive partout là où on lui laisse une ouverture. Vous comprenez l'image? Mais c'est exactement la même chose dans notre vie. Donc, tout va changer selon les écrans. Et là, nous avons gagné un grand chidouche pendant ce shiur. Mahem kelim, parce que vous entendez dans la Kabbalah beaucoup de gens qui parlent de kelim. Qu'est-ce que c'est les kelim? Même notre amuta s'appelle Orot vekelim. Bien, kelim, ça veut dire retsonot. C'était vouloir. C'est très important de comprendre ça. Ratson, ça veut dire keli. Quand tu veux, ton kli est grand. Quand tu veux moins, ton keli est petit. Si ton kli est petit, eh bien, il y aura moins de lumière qui circulera. Et lorsque ton keli est grand, il y aura plus de lumière qui circulera. C'est clair? Ok. Et là, on revient au sphirot. Et donc, tout est lié. Lorsque nous nous afférons à comprendre la sphère de Chesed, qu'est-ce que c'est que la sphère de Chesed? Eh bien, il faut d'abord comprendre que nous sommes du côté droit. C'est-à-dire que nous sommes à droite, quand je regarde à plat, pas avec une vision du dessus. Je dessine la sphère de Chesed à la droite. C'est une indication. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est sur la droite de ma feuille quand je la dessine? Bien, ça veut dire tout simplement que j'indique là, étant donné que je l'ai mise à droite, ça veut dire que je suis en train d'indiquer qu'il y a ici partage, il y a ici écoulement, il y a ici don. Il y a ici le désir de faire avancer le processus. Ça, c'est ce qu'on appelle chesed. Donc, c'est à droite. Klomar, qu'est-ce que c'est que le chesed? Koach ha-ashpa be'ofen klali. Donc, c'est le désir de partager d'une manière générale. Ok, j'ai compris. Mais idar, de l'autre côté, contrairement au chesed, Isuken ou Besfirat Agvura, lorsque je viens m'affairer à comprendre la sphère qui est juste en face du Chesed, qui s'appelle la Gevura, là, cette fois-ci, je vais la dessiner à gauche. D'accord? Pourquoi je dessine cette sphère du côté gauche? Parce qu'elle va indiquer quelque chose. Yeyuchas, ken, hu la tzad asmali shel habinyan. Ok? Ou teyuchas hi, pour être plus correct en hébreu. Elle sera appliquée au côté gauche de la structure des sphirotes. Klomar, le yecholet ha-kabbalah. C'est la capacité que nous avons de recevoir. Alors écoutez bien maintenant. Quand vous étudiez la Kabbalah, vous êtes plus dans la sphère de Chesed ou de Gvura? De Gvura, bien entendu. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la capacité à recevoir les Kabel, Kabbalah. Donc tu dois travailler ce degré-là. Tu dois travailler ta capacité à recevoir. Vous savez, il y a des gens qui sont bons, naturellement. On connaît beaucoup de gens bons, naturellement. Leur problème, ce n'est pas la bonté. C'est de savoir dire non. Aïe, 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 aïe. Et ces personnes-là ne savent pas dire non. Il y a des gens qui ne savent pas dire non dans leur vie. Et toute leur souffrance ne vient que de ça. Parce qu'elles ne savent pas donner des mesures. Elles ne savent pas donner des kelim. Donc tout ce que tu leur demandes, il va te dire oui, 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 et il se fait bouffer par ce grand oui. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Il faut savoir aussi donner des mesures, de donner un frein. Comment est-ce que ça se dit que tout le monde tient sur un frein? Vous savez comment ça se dit? C'est une parole de nos sages. Tole eretz al blima. C'est-à-dire, il maintient la terre par rapport à une blima. Maze blima, un freinage. C'est-à-dire, le monde existe, toutes les étoiles dans le ciel existent. Comment est-ce qu'elles tiennent en l'air? Vous avez déjà posé la question, comment le cosmos, toutes les étoiles, toutes ces planètes tiennent comme ça dans le vide? On est dans le vide. Tole Eretz al Blima. Ça s'appelle Tole Eretz al Blima. Il maintient toutes les planètes dans le ciel sans qu'elles soient à droite ni à gauche parce qu'elles sont freinées. Par quoi elles sont freinées? Eh bien, par des planètes qui les attirent ou qui les repoussent. Alors, imaginez-vous la Terre. Autour de la Terre, il y a des planètes. Et si toutes les planètes autour attirent par leur attraction la Terre, et la Terre aussi les attire, mais comme c'est de tous les côtés, finalement la Terre n'avance pas chez l'un ou chez l'autre, mais elle a un mouvement, c'est pour ça qu'elle tourne. Parce qu'elle veut aller là-bas, mais d'un autre côté elle veut aller de l'autre côté, mais d'un autre côté elle est attirée par là-bas, et donc elle est attirée par là-bas, donc tu as un mouvement dans l'espace. Et en réalité, tout se maintient de cette manière-là. D'accord? Les satellites n'ont pas un moteur. Ils tournent tout seuls. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui les fait tourner? Eh bien, c'est une attraction avec un degré de repoussée. Donc, si je fais l'équilibre entre je repousse et je reçois, eh bien, je crée un mouvement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec une toupie. C'est vivant. Je prends un degré qui va à droite et un autre degré qui va dans l'autre sens. Et c'est là où elle commence à tourner. Tout ceci pour nous dire que la Sphira de Gvura, c'est très important. La Kabbalah, donc, est liée à la Sphira de Gvura. La Géoula, elle est liée à la Sphira de Gvura. Et c'est pourquoi chaque fois que vous voyez dans la Amida quelque chose qui est lié à la Géoula, c'est toujours avec le nom d'Hachem, avec une nikoud, une ponctuation de Gvura, de la Sphira de Gvura. Donc c'est quoi la Géoula? La Gvura révélée. Ça va être la Gvura léoumite, ça va être une Gvura datite, ça veut dire une Gvura lochamtit, ça veut dire une Gvura, il y a plein de Gvurot. Savoir dire Atkan. Ici, tu ne passes pas. D'accord? C'est comme ça qu'on arrête nos ennemis. Atem lo ta'avru. On peut même faire une chanson. Atem lo ta'avru, atem lo ta'avru. Kan Golani, Golani, Shomer. Meïdach, Isukenu besfira tagvura. Donc, c'est le côté gauche. Beminun nachon, de haïnu beofen madoud, ou meshoar, etzel ha mekabelim. Donc, tout va dépendre des mekablim. Combien tu es capable de dire non? Si je te donne maintenant un cadeau et que tu le reçois, est-ce qu'on vient de faire quelque chose de bien dans l'univers ou pas? Oui ou non? Les Chachamim l'ont dit non. Tu viens de faire une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il est dit Sone matanot ichye. C'est celui qui est les cadeaux qui peuvent vivre. Parce qu'un cadeau, c'est quoi? C'est que du chesed. Mais l'autre en face n'a rien fait pour recevoir. Donc il va se sentir mal. Donc il faut lui donner la capacité à recevoir pour que la réception soit vraie, pour que le don soit vrai, pour que le chesed soit un bon chesed. Et c'est pour ça dans la Amidah, on dit « Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam gomel chasadim tovim ». Lama yesh chassadim ra'im? Ken? Chesed leumim chatat. Quand il y a un chesed que les nations font avec Israël, méfie-toi. C'est-à-dire, si les nations d'Israël te disent oui, on vous aime, on va vous donner quelque chose, attention. Dirbalak. Il y a un problème. Et donc, il faut faire très attention à chaque fois que tu donnes à quelqu'un. Alors, même si on vous donne un cadeau des fois, voilà, je viens, je vais donner un cadeau à une amie à moi, je vais lui offrir quelque chose. Elle va me dire, non, maman, je ne suis pas venu, je ne peux pas. Qu'est-ce qui finalement va faire en sorte qu'elle va recevoir? Il y a une clé. Tu vas lui dire, ça me fait à moi plaisir. Ah, je te fais plaisir, donc je t'ai donné quelque chose. Alors je peux recevoir. Vous avez compris le système? Dès que tu dis à quelqu'un, ça me fait plaisir si tu reçois, donc qui donne à qui maintenant? Vous comprenez? Alors on est à égalité. Tu m'as donné du plaisir, je t'ai donné le cadeau. Et là, ça reçoit beaucoup mieux. Eh bien, c'est comme ça dans la vie. Et ça, c'est la sphira de Gvoura. S'il n'y avait pas de Gvoura, c'est une catastrophe. Imaginez-vous, vous ouvrez votre robinet et au lieu du petit faisceau que vous pouvez régler avec la main, vous avez un tsunami. À chaque fois que vous ouvrez le robinet, ça s'appelle Chesed bli Gvoura. On appelle ça le Maboul. C'est ça le Maboul. Qu'est-ce qui manquait dans le monde pendant le Maboul? La Gvoura. Vous avez compris? Ça veut dire qu'à un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la Gvoura dans le monde. Et c'est ce qui a fait la destruction du monde par le Maboul. C'est bizarre parce que freiner, vous rappelez? Comment on dit en hébreu? Blima, nakhon? Tolé Eretz al Blima, je viens de vous le dire. Donc, qu'est-ce que c'est le Maboul? C'est quand il n'y a pas de Bolem. C'est les mêmes lettres. Bolem, Maboul. Imata Bolem, en lecha Maboul. Imata lo Bolem, atamale be Boulmus. C'est ça aussi, c'est la maladie, la boulimie. Ça vient du mot Maboul. C'est manger sans fin, comme un déluge qui ne dit pas stop. Tout est lié, Rabotai. Et ça, les sphirot, quand on les étudie de cette manière-là, ce n'est pas seulement des amidot de partsoufim. Je sais que le chesed, il est à droite, la gvoura, elle est à gauche. Ok, alors? Et là, tu commences à comprendre l'intensité intérieure qui se trouve à chaque degré. Donc il faut des shiurim, il faut des mesures. Bismanim shel geoula. Voilà. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une période de geoula. Qu'est-ce qui se passe? Ha'arot ha'dominantiot en ha'arot pnimiot ha'dorshot kelim chazakim le'achalat ha'or. Étant donné que la lumière est immense qui est en train de descendre, qu'est-ce qu'il faut? Des kelim. Donc, quelle mida il faut renforcer? Je viens de vous le dire. La gvoura. Donc, c'est la gvoura qui va nous donner la capacité à contenir la lumière du Mashiach. Parce que la lumière du Mashiach, ce n'est pas la lumière d'un petit rabbin. La lumière du Mashiach, c'est une lumière, ce qu'on appelle en hébreu « wahad lumière ». C'est immense. Et donc, si tu n'as pas les kelim adéquats, eh bien, chas v'chalila, la lumière du Mashiach, elle peut faire du nezek au lieu de faire de la bracha. Donc, quand tu es né dans une période de Géoula, comme nous le sommes maintenant, c'est le degré du chesed qui est en train de descendre dans le monde. Donc, il faut vite, vite, vite préparer des kelim de gvura. Donc, il faut devenir des giborim. OK? Miteva advarim, bismanim shel galut. De l'autre côté, quand on est en exil, qu'est-ce qu'il y a en exil? Il y a très peu de lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc, à kelim, em chalashim, tu n'as pas besoin de grand kelim. Donc, tu fais des petites choses et tu as l'impression que tu es waouh, ça te dit cadeau. Tu n'as rien besoin, il y a petite lumière, donc ça suffit. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est l'exil? C'est juste pour ne pas mourir. Alors, on garde le juif à petit feu. Donc, il n'a pas besoin de grand kélim pour survivre. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le travail, le véritable travail, c'est de donner les mesures, donc d'avoir des kélim chazakim, des ustensiles très puissants pour contenir la lumière messianique. Atkan le'ayom. Si vous avez des questions, on peut répondre. Bezrat Hashem.
Arav, il y a plusieurs questions, Arav. Attendez, Zachary, attends, il faut que je rouvre le micro. Voilà, Zachary Bechavod.
Merci, bonjour, Arav. Déjà, selon les volontés, on parle bien des volontés des Kélim, des volontés donc humaines ou de la création.
De tout. Chaque degré que tu vois, c'est en fait, tu peux mesurer l'intensité du cli. Donc c'est pour ça que tu vois la chose telle qu'elle apparaît.
D'accord. Et ensuite, quel est le lien qu'il y a entre Kav et Maïm? Parce que dans le récit de la création, on parle de Kav et Mikve Amaïm et Kav
Amaïm, c'est le rassemblement. C'est pas l'eau directement. C'est Mikve Amaïm. Lokashur la Maïm. C'est un Mikve. Yikavu. Yikavu. Yasfu. Qui se rassemble. C'est ce qu'on appelle Mikve. C'est un rassemblement. Yikavu Amaïm. Asher mitachat Hashamaïm. El makom echad. Veterae hayabasha. Donc, Mikve Maïm, c'est un rassemblement d'eau.
Okay. Donc,
le mot Mikve, cave, c'est un rassemblement.
Alors, question de monsieur ou madame Lévy sur le chat. Quand vous faites un cours, vous nous faites en quelque sorte un cadeau, doit-on l'accepter?
C'est pour ça qu'un véritable cours doit être payé. Quand quelqu'un paye, il donne en réalité quelque chose de lui-même pour recevoir et acquérir le cours. Alors ceux qui ne peuvent pas, bien entendu, on ne va pas les forcer, mais ceux qui peuvent acheter le cours, après c'est à eux. C'est quelque chose qui leur appartient. C'est très important, effectivement. Okay.
Question de Rabbin Messan.
Voilà. Et Kavodarab, pour cette précision. Et il me semble que dans l'un de vos cours, juste après Adat Kalbon, qui appelle le monde de Olam Tohu, il y a eu un Olam et Ranekoudim où tout était en ligne. Et après, il y a eu Olam Broudim où on voit les trois as du monde de la Sirus qui se met en place. Bon, non, j'essaie d'approfondir.
Dans Broudim.
Aboudim. Oui, Aboudim. Voilà. Bon, maintenant, en approfondissant votre cours, j'ai lu un peu le Zohar qui dit qu'il y a la création aussi. La Kadosh Baruch Hu, et lors de la création, la première manifestation, c'est les 22 lettres. Mais il y a 7 lettres qui sont allées à droite, mais qui sont restées liquides. 7 lettres à gauche qui sont restées, et qui sortent de l'obscurité, et qui sont restées à gauche. Et après, la ligne centrale, 8 lettres, qui va faire l'espace, qui va se solidifier les lettres avec. Donc, on voit encore les trois as. Pourriez-vous nous expliquer dans notre vie de tous les jours comment on peut mettre ces trois as en place avant de le recéder de tout ça, des attachements?
En fait, il faut chercher un équilibre entre votre désir de partager et entre votre capacité de recevoir et de donner des limites à ce partage. Et donc, c'est une recherche constante entre la droite et la gauche. On va dire que c'est une dialectique dont il faut trouver la médiane qui est en fait la synthèse entre la thèse et l'antithèse. Donc à chaque fois que vous développez un sujet quelconque dans votre vie, il faut que votre cours soit équilibré avec ces trois données. Je vous donne quelque chose, mais je m'assure à ce que cette chose-là soit bien, bien, bien contenue, ficelée dans votre cerveau, et ne pas vous lâcher comme ça, jeter une information et partir comme à la faculté. Ça, c'est le degré de faire l'équilibre entre les deux. Et en fait, ça me permet à moi aussi, qui fais ce travail-là, de gagner en équilibre par mois. Donc, mon balance devient de plus en plus équilibré. Donc, je touche la sphira de Tiferet. Et c'est ça le monde du Tikkun. C'est Olam HaAtzilut.
Dernière question de Mme Garibaldi.
Toda Lecha.
Oui, bonjour. C'était par rapport à... J'ai deux questions. La question, c'est, en séance d'hypnose, par exemple, on va travailler sur les capacités d'une personne à recevoir selon ses sens. Ça va être ou les yeux, ou les oreilles, ou l'odeur, ou le kinesthésique. Et à partir de là, on va accompagner la personne là où elle a des facilités, donc pour recevoir la lumière, et ensuite l'aider à développer d'autres dimensions, d'autres capacités. Est-ce que ça, c'est très lié à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux orifices, justement, où on va utiliser, en fait, là où la personne est réceptive, où elle a acquis, qui va lui permettre après de développer des autres?
Tout à fait. Il faut utiliser les éléments de base de la personne et voir comment rééquilibrer ces points qui ne sont pas encore dévoilés, développés. C'est-à-dire que vous commencez par des données de base que la personne a, mais en même temps, vous essayez de rééquilibrer avec des données qu'elle n'a pas développées. Elle a développé un sens plutôt qu'un autre, et donc il va falloir faire un travail d'équilibre pour l'aider à augmenter dans le degré qu'elle n'a pas encore construit complètement. Tout à fait.
Ok, merci. Et la deuxième question, c'est par rapport à la maladie. C'est-à-dire que quand on a, ou c'est parce qu'on ne reçoit pas suffisamment la lumière pour tomber malade, ou c'est parce que si on la reçoit trop, c'est-à-dire d'être trop réceptif, et qu'on n'arrive pas à trouver les limites, donc les voura n'est pas suffisamment forte et pour consolider, comment faire pour rééquilibrer? Bon, c'est mon cas.
C'est la même question que le rabbin Messan. En fait, il faut tout le temps savoir l'équilibre, c'est-à-dire trop de lumière, ce n'est pas bon, et pas assez de lumière, ce n'est pas bon. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut tout simplement ne pas s'occuper de la lumière. Il faut s'occuper des kelim. On appelle cela tikkun hamidot. C'est-à-dire que l'homme doit réparer d'abord ses midot. En réparant ses midot, il va réparer la lumière qui va lui être accédée. Donc, en fait, il faut travailler avec cette personne-là, ou bien en bioénergie, ou bien en énergie, ou bien au niveau de chacun son degré. Un par l'homéopathie, comme Nili, l'autre comme... Exactement. C'est-à-dire que chacun va rééquilibrer, en fait, ce qu'on appelle les marottes, en hébreu, de la personne. Les degrés que l'homme doit être dans ce tif-eret. Et au moment où il est dans le Tif Eretz, on peut lui faire injecter de la Torah, ça rentre comme dans du beurre.
Okay.
Shavua mevorach lekulchem vebsorot tovot yeshuot venechamot.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.